Bonjour et bienvenue sur Raise by Moviskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Moviskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus, afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Darcy accueille au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Raise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Gauthier, Principal Tech Recruiter chez Mobiskill, et nous accueillons Louise Aslow, CPTO chez Meria. Bonjour!
Bonjour à tous!
Bonjour à tous!
On part sur les premières questions. Gauthier, je te laisse la main.
On part sur les premières questions. C'est pour en savoir un peu plus sur toi, Louis. Plutôt concert ou festival?
Ni l'un ni l'autre. Je suis plutôt live à la maison. Concert.
Ok. Plutôt Ledger ou Metamask?
Ledger.
Plutôt CT ou CTFR?
CT.
Plutôt télétravail ou vacances illimitées?
Un mix des deux.
Management technique ou manager coach?
Manager coach.
Et la dernière, plutôt inclusion ou diversité?
Les deux.
L'un va avec l'autre.
Parfait. Pour poursuivre sur cette présentation de toi, alors dis-nous-en un peu plus, parle-nous rapidement de ton parcours.
Ok, donc moi j'ai un parcours un peu atypique. Donc en fait, je commence un moment déjà maintenant, comme développeur, je suis développeur web, ça c'est mon premier métier, mais j'étais pas un très bon développeur web, donc j'ai vite glissé du côté obscur de la force, j'ai commencé dans une grosse boîte de telco très connue, dont le nom commence par ressembler à une couleur, je vous laisse chercher, et au près 4 ans, je bascule dans une start-up qui est basé dans le sud de la France comme développeur et quelques années plus tard je termine côté service technique, support client et je récupère un peu on va dire une partie des opérations, la fabrication, l'administration des ventes, un peu l'IT et je suis le dirigeant de l'époque dans une autre boîte à Paris, en région parisienne, toujours dans le même secteur d'activité, dans l'IT, dans le backup je rentre dans cette boîte comme product manager côté système d'information, après product manager d'un des produits qu'on imagine être un des produits d'avenir. Et je grandis dans cette boîte, et en tant que product, et dans la boîte. Et en 2020, je prends la direction du product management avec le challenge d'accélérer la croissance de la boîte.
Okay.
Et donc de structurer le produit dans cette boîte-là. Et donc on arrive très vite à une équipe de 10 personnes côté produit avec un mix de product management, product design, product marketing. Et donc j'y reste jusqu'à cet été et je rejoins Meria depuis septembre comme CPTO.
Ok, cool. Et ça te vient d'où cet attrait justement pour le côté développement, pour la tech? Toi notamment à 6 ans, tu rêvais de faire quoi?
Il y a 6 ans, j'étais pas du tout tech.
Lorsque tu avais 6 ans.
Ouais, mais c'était pas du tout. J'étais plutôt dans une optique de construire des cabanes de jardin. c'était mon truc. Mais déjà entrepreneur dans l'âme de monter des cabanes que je revends à d'autres gens. rapidement, de fil en aiguille, je commence à tomber dans le jeu vidéo. Et je vois que dans le jeu vidéo, il y a des gens qui ont des besoins. Leur louer des serveurs de jeu, des trucs comme ça. Donc je commence à bricoler 2-3 trucs dans ma chambre. Et rapidement, il faut vendre ces trucs-là. Mmh. Donc pour vendre ces trucs-là, il faut faire un site internet. Il faut faire un peu de e-commerce. Je mets 2 guillemets sur l'e-commerce parce que c'était très basique. Et à 10-12 ans, t'es pas trop crédible pour trouver un freelance qui bosse pour toi ou trouver quelqu'un que t'arrives à convaincre pour un projet. Donc je commence à me mettre, à développer, à apprendre sur internet avec un site très connu qui est aujourd'hui un des leaders de l'e-learning en France, qui est Open Classroom, pas les citer, qui s'appelait le site du zéro à l'époque.
Okay.
Et donc je commence à m'intéresser à ça. J'ai un esprit assez cartésien, assez scientifique, donc je me prends un peu au jeu, je grandis avec ça. Je fais un bac S, derrière je vais en université, je fais un DUT je me paye une partie de mes études avec du freelance, je fais de l'alternance dans cette super boîte de télécom et j'y reste et je me prends au jeu et c'est comme ça que je suis tombé dans la technique quoi. Donc pas du tout, je suis tombé dans la technique avec l'envie de porter un projet je m'y suis mis malgré moi quoi.
Ouais, c'était inné,
c'était ça, et je m'y suis pris au jeu.
Et justement, fut un temps, tu étais dev. Peux-tu nous raconter ton premier jour en tant que dev chez... dans cette boîte de télécom ou
Je commence en apprentissage. Donc j'arrive dans une entité qui fait pas partie du développement national, qui est plus une entité au plus proche des métiers. D'ailleurs, avec le recul, c'est vraiment un bien pour moi. Ça m'a permis de prendre de la hauteur sur le fonctionnel, de le comprendre, le pourquoi, d'aller chercher à quoi ça sert et de voir le produit au fur et à mesure, d'itérer avec les gens, etc. Donc j'ai très vite pris cette culture-là. Et donc vraiment, si on revient au premier jour, je suis retrouvé, j'arrive sur un plateau de gens qui font de l'administration des ventes, qui reçoivent des commandes, qui les traitent et qui ont des problèmes auxquels l'informatique ou leur système d'information à l'époque ne répond pas. Moi, je me retrouve en plein dedans et on me dit, toi, avec ton œil de développeur, de technicien, il faut que tu les aides à régler leurs problèmes métiers et que tu leur facilites la vie. Et c'est un peu comme ça que j'ai démarré. Et ça m'a aussi donné cette vision produit, cette capacité à prendre de la hauteur très vite et comprendre comment moi, avec mes outils techniques, je peux régler eux leurs problèmes de métier. Donc très cool, très belle expérience.
Ok, et maintenant, quelques dizaines d'années plus tard, tu es CPTO chez Meria. Concrètement, déjà pour les auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire CPTO?
Alors, ça fait beaucoup de lettres.
Voilà, c'est ça, donc c'est pour ça. Et finalement, quel est ton quotidien en tant que CPTO?
Donc, CPTO, c'est pour Chief Product and Technical Officer. Donc, en gros, le direction technique et produit. Donc, c'est bien, au moins, je peux décider tout seul.
Quand tu avais 6 ans pour faire la cabane.
Il n'y a plus de guéguerre entre le produit et la technique. Non, l'idée vraiment de CPTO, donc c'est de l'idée au sein de Maria, ce département produit qui est beaucoup de tech aujourd'hui. Et qu'on va content à avoir un peu plus de vision produit, de hauteur produit. Donc, en gros, dans mon quotidien aujourd'hui, il y a une bonne partie de management de l'équipe technique, les aider à grandir, driver, insuffler un peu cette dynamique et structurer par du process et un peu de méthode, et un peu moins beaucoup de méthode, et d'apporter, surtout je viens d'une grosse expérience produit, cette culture produit, cette capacité à anticiper les besoins, à les préparer, à les travailler, avec de l'utilisateur ou en tout cas des représentants des utilisateurs pour structurer ce qui arrive en développement et pas faire 50 millions d'allers-retours sur un produit déjà développé, etc. Donc vraiment anticiper ce qui tombe, on va dire, à l'usine et un peu construire cette vision produit, ce bureau d'études, on va dire.
Ouais. Ok. Est-ce que c'est un peu comme s'il y avait deux postes en un que tu occupes?
Ouais, c'est ça. On peut dire que c'est un mix de produits et techniques. On a fusionné un peu les esprits. C'est vraiment, pour moi, c'est intéressant. C'est surtout dans l'environnement produit dans lequel on est, c'est assez intéressant. C'est assez complémentaire.
Parfait. On a enclenché un peu la discussion sur Meria. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on fait chez Meria? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on fait?
Donc Meria, on est une fintech. On est une institution financière enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF. Donc ça fait encore beaucoup de lettres. Donc PSAN, c'est prestataire de services sur actifs numériques. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc on propose des produits d'investissement à diverses populations adossées à de la crypto-monnaie. Donc on a plusieurs populations, comme je disais. On a une première population, c'est monsieur et madame tout le monde qui veut investir à travers notre plateforme dans des produits adossés à la crypto-monnaie. On a une deuxième population, c'est monsieur et madame tout le monde qui commence à avoir un patrimoine, qui veut diversifier ses placements et donc qui a aussi un patrimoine assez important. Et donc là, qui peut nous donner un mandat de gestion où on va l'accompagner à construire son plan d'investissement et à piloter son plan d'investissement avec cette personne. Et après, le troisième, de par notre expérience et notre expertise technique dans le domaine de la crypto-monnaie, on va proposer nos services d'opérateurs, on va dire, techniques, soit à la communauté, puisqu'on opère des nœuds crypto pour valider les transactions, et aussi on peut proposer ce service-là en marque blanche pour d'autres et assurer cette partie un peu d'opérateur et de prestataire technique pour soit des gens dans la crypto qui n'ont pas forcément et les moyens de se réguler, de sécuriser les fonds de leurs clients, etc., ou qui ne veulent pas le faire, ou des fintechs qui veulent diversifier leur offre produit, pas forcément investir dans une infrastructure, dans de la régulation, dans de la compliance, etc., et qui nous confient cette partie-là en marque blanche pour pouvoir opérer le service.
Ok. C'est quelque chose qui t'intéressait de base, l'environnement crypto ?
Alors, j'avais déjà une sensibilité, j'avais déjà investi, j'avais aussi déjà perdu de l'argent. j'étais informé, bien sensibilisé au sujet, ouais. Je m'intéressais au sujet. Et je suivais la chaîne de notre fondateur qui est aujourd'hui le premier influenceur crypto qui est Owen Simonin, Asher, ouais. Sur YouTube. Et c'est vraiment par hasard que j'ai postulé chez Meria et que nos routes se sont croisées et qu'on a avancé ensemble.
Mais justement, t'embrayes sur la question que je voulais te poser. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu les as rejoints, Meria? Et également, quelle est la valeur qui t'a le plus marqué lorsque tu as passé par le process chez Meria et actuellement qui te marque chez Meria?
Donc dans l'expérience d'avant, j'ai fait quasiment 9 ans avec le même dirigeant, donc je pensais avoir fait un peu le tour du bocal. Et donc l'envie d'aller voir ailleurs, d'avoir envie d'avoir autre chose, d'aller appliquer tout ce que j'ai construit ces 10 dernières années à un projet. Comme je disais, avant d'être tech, avant d'être produit, j'ai ce petit côté entreprise, cette petite fibre de je prends une graine, je la fais grandir, on s'y reprend 2-3 fois, on casse des choses, on apprend, on avance. Et je cherchais un projet un peu ce style-là, un projet qui me fait vibrer, qui me donne envie, cette envie de me dépasser, de me lever le matin, d'aller construire quelque chose et de construire quelque chose avec une équipe. Et Meria a cherché quelqu'un, j'ai postulé par hasard en me disant ils me rappelleront jamais, je ne suis pas du tout crypto, j'ai pas le background. Et au final, ils m'ont rappelé. Et très vite, il y a eu ce feeling, ce côté entreprise, aventure humaine au top, avec plein d'humilité de partout. Avec que des gens qui ont envie d'avancer tous ensemble, et vraiment tous ensemble, qu'on gagne ou qu'on perde. Et c'est vraiment ça qui a été vraiment le déclencheur, quoi. Avant même le projet, ouais. l'équipe, c'est vraiment l'équipe qui a fait vraiment la différence et les relations qu'on a très vite et ce lien de confiance qui s'est vraiment créé très vite.
Ouais, donc beaucoup de valeurs humaines et d'humilité chez Meria.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet écosystème dans lequel évolue Meria et donc la crypto?
C'est quelque chose aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était quelque chose de très marginalisé, on va dire. C'était vraiment quelque chose soit pour les crypto-addicts, très tech, etc. Aujourd'hui, ça glisse vers la finance traditionnelle.
Ouais.
On est une fintech aujourd'hui, on n'est plus une boîte crypto pure 100%, on est vraiment une fintech. Aujourd'hui, on a des gros enjeux, et pour tout l'écosystème, il y a des gros enjeux, c'est la régulation. De toute façon, je vous laisse voir la presse au quotidien, c'est quelle que soit la plaque géographique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, il y a des vrais enjeux de régulation, et c'est vraiment l'enjeu 2023-2024 pour nous et pour l'ensemble de l'écosystème.
Ok. Et d'un point de vue purement recrutement et écosystème fintech crypto, pour enclencher en fait sur le sujet pour lequel on est là aujourd'hui, qui est la parité homme-femme dans la tech et dans les équipes techniques. Votre fondateur du coup est un, très vulgairement, est un YouTuber, un influenceur qui est très suivi. Donc comme tu le disais, numéro 1 sur la crypto. Comment ça se passe? Est-ce que tu sens que cette population est inclusive et diverse et paritaire?
Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que d'un point de vue blockchain, d'un point de vue crypto, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'origine, il n'y a vraiment rien du tout. La crypto, celui qui, contrairement à pas mal de codes qu'on peut avoir dans le monde traditionnel, celui qui a un bitcoin, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Et donc, on ne peut pas, de par essence et de par les valeurs de l'écosystème, on ne va pas catégoriser tout ça. Donc, c'est de par cette essence, c'est quelque chose qui transpire aujourd'hui dans la boîte. On n'a pas de. On ne va pas avoir de discrimination positive, on ne va pas avoir, etc. C'est vrai être la valeur de l'individu, au sens large, homme ou femme, qui va faire la différence, ses compétences. Et son envie de rejoindre l'aventure et de construire avec nous. Donc aujourd'hui, dans le recrutement, dans les process de recrutement, on va aller avant tout chercher des compétences, ça c'est évident, on n'embauche pas des gens parce qu'on les aime bien, mais on va aussi chercher cet humain et cette capacité à rejoindre une aventure. Et surtout, ce n'est pas tout le temps gagné. Hein. Aujourd'hui, le marché crypto, ce n'est pas la panacée. Donc les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, qui nous rejoignent pour construire aujourd'hui, c'est qu'ils ont envie d'être là et construire avec nous. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher avant tout. Et donc, pour parler vraiment de parité, ça nous tient aussi à cœur d'aller chercher des femmes, surtout dans la tech, parce que c'est vraiment difficile. Hein. Je crois que c'est 17% la moyenne du segment. C'était l'étude GenderScan 2022. Donc, vraiment un challenge dans la tech au sens large d'aller chercher les femmes. Mais ça apporte cette vision complémentaire qu'on veut. Par contre, on va chercher avant tout l'individu, des compétences et une envie de construire avec nous. Welcome.
Ouais.
Justement, tu en parles de challenge dans la tech, de recruter plus de profils féminins. De ton côté, dans quelle mesure est-ce que l'inclusion et l'ascension des femmes dans la tech, ça va être un sujet clé pour toi, Louis, mais également pour Meria?
Bah, c'est on le voit, hein, y a pas mal d'études qui l'apportent. Les femmes dans la tech apportent une vision différente, complètement différente. Historiquement, l'ensemble des produits sont designés par des hommes, développés par des hommes, poussés par des hommes, donc à destination d'hommes. Et aujourd'hui, le marché, il y a autant d'hommes que de femmes. Dans la crypto, il y a pas mal de femmes. Dans la finance, au sens large, il y a pas mal de femmes. Et comme on le disait tout à l'heure, de par la nature de la crypto, homme, femme, peu importe. Donc ça serait dommage de se priver d'une partie du marché qui a la capacité d'investir, qui a la capacité de développer une stratégie d'investissement en crypto-monnaie. Et donc on a besoin de femmes pour avoir cet éclairage, on a besoin de femmes pour voir cette différence-là et orienter nos développements, nos produits, construire des produits qui peuvent toucher tout le monde au sens large, femmes, hommes, non-genrés, et quelle que soit l'origine, la religion, etc.
Ok. Et donc tu disais c'était ouvert à tout le monde, mais aujourd'hui comment on fait pour avoir des équipes paritaires sans passer par de la discrimination positive ou mettre des quotas ou mettre en place des mesures spécifiques?
C'est compliqué.
Ouais.
C'est compliqué parce que aujourd'hui, donc sans taper sur l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, de par le système éducatif, très peu de femmes se rendent vers la tech. Et là je parle vraiment des profils tech, je ne parle pas des autres profils, mais développeurs, il n'y a pas beaucoup de femmes développeurs. Ça tend à changer. Les écoles de reconversion, etc. Aident dans ce sens-là et aident énormément, puisque beaucoup des profils que j'ai vus ces dernières années en recrutement, en général, passent par ce parcours-là. Mais initialement, au parcours initial, il n'y a pas eu d'orientation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses côté système éducatif. Mais bon, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'entreprise d'essayer d'y contribuer par l'alternance, par aller intervenir dans les classes pour se un peu vulgariser, démocratiser un peu cette parole. Mais vraiment, ça va dans le système éducatif. Donc il y a des choses à changer. On essaye d'y contribuer à notre échelle, à notre juste mesure, par l'apprentissage, par aller intervenir dans des établissements. Mais ça passe vraiment par là. Et il y a un énorme chemin encore à faire. Surtout qu'on le voit, d'une manière générale, les filles, les femmes à l'école sont meilleures en maths, sont meilleures en sciences. Et à la fin, on a des écoles d'ingénieurs, plein de mecs.
Ouais.
Y a encore un gros travail, un gros chemin à faire, et c'est un effort de tout le monde. Et je pense aussi beaucoup des entreprises, puisqu'il y a de plus en plus de partenariats public-privé, donc d'insuffler cette énergie, ce mouvement.
Et justement, tu parles d'insuffler cette énergie. Demain, tu rencontres un profil féminin en process de recrutement. Tu te rends compte qu'il y a un niveau en deçà des compétences requises pour le poste chez Meria. Toi, est-ce que tu te sens prêt justement à donner un peu plus de toi, justement, un peu plus de temps, d'énergie pour accompagner un profil féminin qui, sur le papier, est en deçà des compétences requises?
Alors, sur la compétence, y a compétences et compétences. En tout cas, savoir, c'est sûr que c'est pas ça qui fera la différence. On va pas juger sur le savoir, parce que le savoir, ça s'apprend. Donc, on va juger sur la capacité à apprendre. Donc, c'est l'humain et la capacité à apprendre ou à construire ou à avancer, l'esprit d'analyse qui fera la différence. Mais après, on ne poussera pas un profil parce que c'est une femme avant d'autres. Ce n'est pas trop de nos valeurs sur cette partie. Par contre, je reste persuadé que dans une équipe tech, d'avoir des profils féminins apporte quelque chose de différent. Donc si j'ai ce quelque chose de différent, c'est sûr qu'on fait.
Bien sûr. C'est quoi justement, qu'est-ce qu'un profil féminin peut apporter de plus dans une équipe,
Ah, une vision produit, produit un peu différente, une vision pratique qui est un peu différente, une énergie qui a rien à voir avec l'énergie des techs et des devs qu'on peut connaître, et un équilibre. Dans l'expérience précédente, on était 50-50, donc c'est plus facile côté produit de recruter que côté développement. Mais il y avait cet équilibre, vraiment au quotidien, dans les projets, dans l'analyse des situations, dans les questions du X, qui était très forte. Donc, c'est vraiment cette énergie, cet équilibre que peut apporter, et cette complémentarité, vraiment qu'on n'a pas aujourd'hui, puisqu'on est beaucoup de mecs.
Ouais, bien sûr. Ok. Moi, demain, Gauthier, je veux rejoindre Meria, je veux me lancer dans un nouveau challenge. Comment est-ce que tu me pitches Meria? Comment est-ce que tu me le vends pour vous rejoindre?
Aujourd'hui, la crypto, c'est une techno qui est devenue mainstream bien plus rapidement qu'Internet. C'est la révolution, on va dire, de ce siècle. On est encore dans un marché qui reste explosif. Bon, on ne va pas parler des chiffres du moment, mais qui reste explosif, qui reste très, très intéressant, qui bouge très vite. Et quand je parle d'explosivité, je ne parle pas forcément de cours ou autre, je parle vraiment d'écosystèmes qui bougent, etc. Donc je pense que si tu rejoins Meria aujourd'hui, tu viens chercher cette aventure, ce challenge. Okay. C'est un peu pour ceux qui ont connu la bulle Internet il y a 10 ou 20 ans avec toutes les startups qui montent, un peu le loup de Wall Street, etc. C'est ça qu'on vient chercher. En dehors de l'aspect finance, il y a un aspect techno qui est super fort, il y a un aspect aventure, entrepreneur. Et tu regardes aujourd'hui chez Meria, viens nous voir. Dès que tu arrives au bureau, tu sens cette énergie. Tu sens ce truc où tout le monde est à fond, quel que soit son poste. Il n'y a pas un ON qui est devant et la boîte qui court derrière. Il y a vraiment tout le monde qui court, tous ensemble. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a vraiment une boîte, une équipe, et on fout tous ensemble. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que j'ai signé.
Ouais.
Et je pense qu'on peut embarquer un certain nombre de personnes qui adhèrent à ces valeurs et qui ont envie de cette aventure et de cette excitation, ouais. Ce côté un peu explosif.
Bon, je pourrais pas dire si tu m'as convaincu ou pas, mes managers vont sûrement m'écouter. Merci pour ce pitch.
Je pense qu'on est sur le mot de la fin. Merci beaucoup, Louis, de ton intervention et d'être venu nous parler de Meria.
Merci à vous.
Et merci, Gauthier.
Merci.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Raise.
Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Raise.